discussion. Néanmoins, et c'est la première fois dans un cours ici, qu'il n'y a aucun exposé au départ. Je pense que ce qui ne va pas dans cette discussion, c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu d'exposé. Alors, ça c'est d'abord sur le plan de ce qui se passe de la discussion. Deuxièmement, quand on avance...
Le 14 novembre, le débat du Centre populaire de formation socialiste a pour thème « Sexualité, couple, famille ». Boris Frankel anime ce débat. Le contenu de cette cassette est basé sur des interventions enregistrées durant le débat et sur un dialogue entre un militant et Boris Frankel.
Je me suis souvent rendu compte dans ma pratique de militant que, effectivement, dans tous les problèmes, il y a une dimension sexuelle et que la sexualité était quelque chose de très important et qu'il fallait, sur ces problèmes-là, faire de l'information, mener des luttes et que ça pouvait amener au combat plus global un certain nombre de couches de gens, notamment les jeunes et les femmes.
Aux défenseurs des discours excellents, je voudrais donner à réfléchir la chose suivante, qu'ils ouvrent le petit livre que le mouvement du 22 mars a écrit d'eux-mêmes, qu'ils lisent le premier paragraphe et qu'ils méditent peut-être sur le fait où ils racontent que dans la démobilisation totale de Nanterre très antérieure à mai 68, une conférence sur jeunesse et sexualité pour la première fois réussi à intéresser les étudiants de Nanterre. C'est passé de la façon suivante que j'ai expliqué que je ne ferai pas de discours parce que je pense, évidemment, à ce moment-là, parler de sexe, de jeunesse et sexualité était un peu plus nouveau, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Et ce que je pensais être important, c'est de montrer qu'il fallait faire de la politique autrement et que le dialogue avec une salle, montrer qu'on peut faire appel à ce qu'il y a dans les gens, serait beaucoup plus rentable à court, moyen ou long terme. Ça, personne ne le sait, ni le bon Dieu, ni nous, ni le père Marx, ni Lénine, etc. Et que les événements ont quand même peut-être démontré que penser qu'il faille donner un autre style, un autre contenu à la politique socialiste n'est pas totalement absurde.
Si on est militant socialiste révolutionnaire, on doit porter la critique du capitalisme sous tous les aspects. C'est d'ailleurs l'objet même de ce couple, de ce cycle.
Nous lui sommes accouplés, oui.
Carrément. C'est justement l'objet de ce cycle, d'être une critique des pratiques sociales. Alors il y a vraiment peut-être la pratique sociale la plus répandue, c'est précisément la pratique d'un certain type de sexualité ou d'accouplement, puisque justement, dans la notion d'accouplement, on a sexualité et l'institution même bipolaire, comme on disait tout à l'heure.
Je vais énumérer ce que, si moi j'étais à votre place, si j'étais un auditeur ou un participant à un débat sur la thématique en général, sexualité, couple et famille, quelles questions je me poserais et quelles questions je trouverais les plus importantes à être débattues en séance. Alors, je me permets de faire ultra rapidement, si vous voulez, cette petite introduction-là. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est d'avoir un débat, d'ouvrir des questions, peut-être même des questions qui ne sont pas nécessairement familières à tout le monde, peut-être aussi des questions qui risquent, le cas échéant, de choquer des gens entre vous, mais c'est ça la vie de l'esprit, si j'ose m'exprimer ainsi. Et on va parler de la vie du sexe, si vous voulez. La première question politique qui se pose, me semble, comment est-ce possible que nous vivons dans quelque chose qui paraît être une société permissive et qui est caractérisée comme ça par ceux qui sont surtout des adversaires d'une liberté sexuelle, quoi qu'on puisse s'imaginer sous ce terme ou sous cette réalité. Est-ce que c'est vrai que nous vivons la fin du puritanisme, ou peut-être nous sommes déjà au-delà, si vous voulez, de l'époque puritaine? Si oui, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi le capitalisme tolère-t-il cela? Pourquoi le capitalisme, le cas échéant, il y a peut-être des camarades qui pensent ça, est-il aussi un des promoteurs de cela? Sinon, si nous ne vivons pas, si notre société n'est pas réellement permissive, quoi qu'on puisse mettre sous cet adjectif, dans ce cas-là, il faut dire, alors comment comprendre ce qui se passe sous nos yeux? Parce qu'il est évident que des choses qui se passent aussi aujourd'hui dans le domaine des mœurs ne sont en rien comparables, par exemple, à ce qui s'est passé en Europe avant 1914. Alors il faut aussi fournir une explication, il faut fournir aussi une explication politique, il faut fournir un appareillage mental et intellectuel, si j'ose m'exprimer ainsi, pour expliquer cela. Il faut aussi dire si cette évolution qui se joue devant nos yeux, est-ce que globalement parlant, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Et évidemment, positif et négatif, dans quelle optique? Il ne s'agit pas de positif ou de négatif dans l'absolu. Ça ne veut rien dire et ça n'aurait aucun sens. Une autre question que je me poserais serait la question suivante. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux populaires urbains, parce que c'est de cela qu'il s'agit, nous ne discutons pas qu'est-ce qui se passe dans les campagnes françaises, nous ne vivons pas à la campagne, et nous ne sommes pas en général issus et liés au tissu villageois, si vous voulez. Alors, dans les milieux populaires urbains, en général, chez les ouvriers, dans la classe ouvrière française en particulier, qu'est-ce qui évolue? Quels sont les modèles dans le domaine sexuel? Et qu'est-ce qui fait évoluer les faits, si toutefois ils évoluent? Et ils évoluent en quoi? Je crois que c'est important pour des militants. Je suppose que c'est pas, vous ne venez pas simplement dans l'esprit d'une université populaire pour écouter qu'on verse dans vos têtes la bonne parole, mais je crois et je souhaite en tout cas que vous venez dans l'esprit de militants ou au moins de futurs militants socialistes et vous posez ces questions-là, parce qu'ils sont essentiels en tout cas dans ce domaine-là qui nous préoccupe ce soir. La deuxième partie, si vous voulez, du titre de cette discussion était une discussion sur le thème couple-mariage. Bien, tout le monde le sait. On dit toujours ça de façon rhétorique. Enfin, on suppose que tout le monde le sait. Tout le monde sait que le mariage a été en quelque sorte une espèce de superstructure du couple durable. C'est-à-dire par le mariage, le couple, ça voulait dire le couple uni, indissoluble, à toute la durée de la vie. Le couple était sanctifié par l'Église, il était mythifié parce qu'il était réputé, en tout cas d'après la morale, indissoluble, sauf par la mort d'un des deux partenaires. Et le mariage donnait une espèce d'estampillage de valeur morale exemplaire à cette chose-là. Et quand Feu Pompidou est allé inaugurer le 25e congrès des associations familiales, les allocations familiales, etc., il a dit nettement et clairement, il a répété ce qui est, si vous voulez, un des trends, une des permanentes de l'histoire bourgeoise moderne, que une des deux bases, une des deux colonnes sur lesquelles reposait la société bourgeoise, la société française moderne, restait toujours la famille. Alors, c'est pas simplement... et quand Pompidou a fait ce discours-là, je ne sais pas ce qu'il lui pensait en tant qu'individu de cela, mais en tout cas, il se sentait obligé d'affirmer ex cathedra que, de ce point de vue-là, rien n'avait changé, rien n'aurait dû avoir changé en France. C'est donc une chose, en tout cas du point de vue des valeurs morales officielles, une chose importante. Et ce n'est pas parce que Debré réaffirme cela, et parce que Debré, je ne sais pas, vous le prenez peut-être pour un politicien sérieux ou peut-être pour un pitre, il est probablement les deux en même temps. En tout cas, il n'est sûrement pas le seul à penser cela, à écrire cela. Et au-delà de l'aspect mariage du couple durable, il y a le fait qu'on commence à se poser. Vous savez que les gens qui étaient influencés par le freudo-marxisme ou par Reich, parce que c'est peut-être la, la personne la plus connue, ont toujours dit oui, si nous sommes pour le mariage, ça ne veut nullement dire que nous sommes pour le papillonnage, comme nos adversaires nous dépeignent, c'est-à-dire, tout le monde sait, je crois, ce que veut dire le papillonnage, avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, etc., etc. Et dans le livre de Reich, par exemple, dans le livre qui est le plus répandu, qui s'appelle faussement, je dis faussement parce que quand Reich était encore militant, communiste révolutionnaire, ce livre s'appelait autrement, il s'appelle, qui est vendu en France sous intitulé La révolution sexuelle, Reich, dans toute la première partie, est une attaque à fond contre le mariage bourgeois. Il défend l'idée qui lui semble allant de soi du couple durable. Et quand on parle de couple durable, ça transgresse, si vous voulez, simplement le couple hétérosexuel, parce que sous cet angle-là, on peut très bien s'imaginer, et vous connaissez probablement tous autour de vous, des couples homosexuels. Alors sous cet angle-là, le couple durable était ou est, si vous voulez, un modèle qui nous paraissait acquis. Il faut dire que depuis quelque temps, la notion même de couple sexuel durable, je ne parle pas du couple communauté domestique qui habite quelque part, mais la notion de couple sexuel, de couple durable sexuel, durable ne veut pas dire un couple, un engagement dans une situation de couple pour toute la vie, mais durable, ça veut dire au moins quelques mois, sinon quelques années, quelque chose comme ça. Tant qu'on peut se supporter et tant que les inconvénients sont surcompensés par les avantages, disons, très prudemment. Est mis en question, et pas seulement des gens qu'on peut si facilement et si facilement pour nous, pour ne pas voir la problématique traitée de zinzin, où Mitterrand les a appelés les zozos, je crois, n'est-ce pas, avec son grand sens politique. Est-ce que aujourd'hui, il ne faut pas éventuellement débattre de cette réalité, si vous voulez, au moins du couple durable. En tout cas, je crois, il me semble. Je ne veux pas nécessairement moi déclencher le débat là-dessus, mais je trouverais tout à fait légitime si à l'intérieur de la discussion d'aujourd'hui, des questions de cet ordre sortaient. Et je voudrais dire, pour ne pas tenir le crachoir trop longtemps, je voudrais juste parler d'un autre thème qui n'est pas nécessairement lié à cela, ou en tout cas qui est une autre phase, une autre face de notre problématique. C'est pendant un certain moment, il y a eu beaucoup de vent fait dans le sens positif et négatif du terme pour la section de l'homosexualité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on devrait aller plus loin. Aujourd'hui, on devrait poser la question, parce que beaucoup de gens se posent la question. Dans le passé, le père Freud, qui sous cet angle-là ne reculait devant rien, se l'est réellement posé. C'est peut-être la question de la bisexualité, des choses comme ça, qui effrayerait peut-être davantage encore les gens que la question des déviations sexuelles, déviations avec guillemets ou déviations sans guillemets. Chacun dans ce domaine-là est tout à fait libre d'avoir des idées qui lui conviennent.
On assiste à un phénomène du genre. Plus en plus de choses sont permises. L'avortement, bon, il y a une loi qui l'autorise, elle est ce qu'elle est, il y a des têtes critiques qui ferment, enfin, on peut se faire avorter. Les sex shops fleurissent dans toutes les rues de Paris. Bon, il me semble qu'il y a une libéralisation. Est-ce que ça veut dire que petit à petit on va arriver à une société où la liberté sera le sang de tout le monde?
Alors nous voilà au beau concept de la société permissive. Est-ce que la société permissive est le résultat d'une vraie libéralisation? Est-ce qu'il s'agirait, comme le pensent des conservateurs réactionnaires, du début d'une révolution sexuelle et c'est la fin de l'ancien monde, etc., etc. Je crois que c'est important de comprendre, en dehors du fait, dans le domaine politico-économique à proprement parler, que le gouvernement actuel a fait des concessions dans un domaine où ça ne coûte pas un radis, si on analyse les choses quand même d'un point de vue de l'évolution des mœurs, il faut essayer de voir ensemble en quoi est-ce qu'il y a progrès, ne serait-ce que progrès relatif, et en quoi les structures morales anciennes, ou en tout cas les structures morales fondamentales, ne sont pas bouleversées par les concessions faites. Je crois, si tu es d'accord, je te propose un concept que j'emprunte à Herbert Marcuse, le concept de la désublimation répressive. Ça veut dire que, d'abord, effectivement, d'un certain point de vue, il y a désublimation. On n'est plus les cadres de la vieille morale puritaine telle qu'on peut s'imaginer l'Angleterre victorienne, qui a été un modèle du point de vue des mœurs pour toute l'Europe civilisée. Sous cet angle-là, d'un certain point de vue, on ne peut plus maintenir la répression au premier degré. Et il y a une désublimation. Donnant un seul exemple, on voit de plus en plus le corps s'est dénudé progressivement, le corps féminin, le corps masculin, et on peut donc dire, sous cet angle-là, qu'il y a progrès. Mais le progrès est limité à l'intérieur du système moral dont, en définitive, les anciens standards sont toujours maintenus. C'est-à-dire, on suppose toujours que les relations sexuelles convenables doivent passer par le mariage, c'est-à-dire qui postule toujours dans la tradition judéo-chrétienne, au moins théoriquement, une seule femme pour toute la vie ou un seul homme pour toute la vie.
Mais il ne semble pas qu'il y ait vraiment des progrès sur un certain nombre de choses.
Oui, il y a progrès, mais à l'intérieur d'un système moral qui est toujours basé, sinon sur la répression ouverte, en tout cas sur la contrainte. Et sous cet angle-là, la désublimation se fait dans des structures beaucoup plus étroitement limité que ça ne paraîtrait à première vue, quand on pense, comme tu viens de le dire, à l'omniprésence des films porno et des phénomènes de ce type-là.
Il me semble qu'on est en train de mettre en route aussi un nouveau contrôle social, c'est-à-dire que on parle de la sexualité comme une spécialité médicale, comme une affaire de spécialistes, on parle des sexologues. On met en route toute une littérature là-dessus. Il y a maintenant une littérature spécialisée sur les problèmes de la sexualité. Bon, c'est peut-être très intéressant parce que ça va peut-être permettre à des tas de gens d'être mieux informés, de discuter beaucoup plus de la sexualité et de leur sexualité. Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas pour toi un danger de dire un peu aux gens comment maintenant il faut qu'ils fassent, dans quel cadre? Enfin, on a lâché du lest peut-être d'un côté et on va essayer de resserrer la vis de l'autre.
Oui, le curé et le pasteur du temps de la reine Victoria ont été remplacés par le médecin. C'est à se demander si c'est un progrès décisif dans l'histoire de l'évolution des mœurs. En tout cas, on peut se poser la question si, entre autres fonctions, le médecin n'a pas la fonction d'être la caution de la nouvelle répression dans le domaine des mœurs qui se donne libéral vers l'extérieur et qui a gardé son vieux noyau de répression. Je prends un exemple que tout le monde a entendu ou que tout le monde peut suivre. Par exemple, dans un poste périphérique, Radio Luxembourg, pour ne pas la nommer, a instauré des débats sur les questions qui de près ou de loin relèvent de la question sexuelle et qui, je crois, ont un très grand succès. En soi, comme ça, à première vue, ça semble être un progrès. Mais dès qu'on analyse réellement le discours
les réponses d'Émilie Grégoire, on voit que c'est vraiment un discours du type des sublimations répressives. Je prends deux exemples. Vers le mois de juillet, en tout cas avant les vacances, il y avait des interlocuteurs ou des interlocutrices qui posaient les questions de la sexualité juvénile. Alors là, le libéralisme de cette épouse d'un conseiller d'État s'est immédiatement arrêté et elle était absolument contre la libération de la sexualité juvénile. Je rappelle entre parenthèses que Wilhelm Reich avait fait de cela le critère si on était réellement pour le libre exercice de la sexualité et non. Et je rappelle dans ce contexte-là que le docteur Maignan, quel que soit quel que puisse penser lui en tant qu'individu de cette question-là, en tout cas n'est pas intervenu, n'a pas eu le courage de dire ce qu'il pensait de cette question-là, c'est-à-dire objectivement il servait de caution dite scientifique à l'attitude absolument répressive de Ménie Grégoire. Alors, tous les sexologues ne sont peut-être pas à mettre dans le même sac, mais en tout cas, trop souvent, la sexologie et la médicalisation de la question sexuelle, donc la question que les gens ont toujours besoin d'un confesseur en quelque sorte, sauf que c'est un confesseur sous une robe scientifique aujourd'hui, est en soi une structure héritée de l'ancien état des mœurs et montre en tout cas qu'il n'y a pas encore une laïcisation dans le sens profond du terme de cette question-là et que deuxièmement, que le public n'ose pas réellement de se prendre en charge et dans cette question-là et ne pense pas qu'il est aussi compétent que n'importe qui dans l'exercice de cette fonction la plus noble, enfin la plus noble ou une des plus nobles en tout cas du corps humain.
Oui, je crois même que c'est plus dangereux que le curé du village ou que les théories de l'église catholique parce que ça me paraît beaucoup plus déguisé, beaucoup plus caché. On va voir un spécialiste, on lui fait confiance. Enfin, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Je crois qu'il y a tout ça aussi qui était peut-être moins évident par rapport à une autre situation.
Je crois que c'est une erreur de soutenir que c'est plus dangereux. Je crois que le public a à peine de s'imaginer qu'est-ce que était la répression sexuelle ouverte au temps de de la reine Victoria. Il faut regarder des gravures, des tableaux, des gravures de mode, où imaginez-vous simplement, vous avez tous vu des scènes de bains du début du siècle, de quelle façon le corps humain était caché. Alors, quand je dis il était caché, ça veut dire réellement caché. Et les femmes étaient en plus enfermées dans une cuirasse, c'est pas une image. Il faut prendre ça tout à fait littéralement, le corset, les balayages et tout cela, sous cet angle-là, c'est à peu près inimaginable pour quelqu'un d'aujourd'hui de s'imaginer la tenue vestimentaire-corporelle des gens de ce moment-là. Alors, sous cet angle-là, il y a une libération vraie. Prends un autre exemple où tout le monde peut comprendre que la libération peut avoir un côté répressif. Je crois qu'il faut défendre les naturistes quand ils sont en butte avec des populations retardées. Mais le naturisme, en tout cas tel qu'il est pratiqué officiellement, est un bel exemple pour comprendre cette notion de désublimation répressive. Il n'y a pas de gens plus soumis à la morale traditionnelle que les naturistes, tout en se promenant à poil, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, sous cet angle-là, la désublimation est poussée jusqu'à son point extrême où ça se retourne, où ça devient là, effectivement, quelque chose de négatif, c'est-à-dire une espèce de désérotisation du corps. Alors, on a, à l'intérieur même de la désublimation des questions sexuelles, un phénomène négatif, c'est-à-dire l'érotisme disparaît totalement comme dimension possible de l'amour, du comportement intra-humain, etc.
Je crois qu'on s'exprime ici sur la sexualité en fonction de la connaissance de la sexualité et de la répression sexuelle au stade de l'enfance. Je me sens pas assez compétente pour entamer ce domaine, mais je crois qu'en tant que mère de famille, on s'aperçoit à un certain stade à propos de nos enfants qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas quoi leur dire. Et finalement, on leur retransmet ce qu'on a senti nous-mêmes au stade de notre enfance. Et même si on a changé au point de vue de la conception de l'idée, enfin des problèmes sexuels, on n'est pas toujours à même de les transmettre à nos enfants. Et je crois que la répression sexuelle, enfin la première partie peut-être de notre thème de ce soir, moi je crois que la répression sexuelle commence à l'enfance et tout est dans l'éducation sur ce domaine.
Puisque dans notre société, on suppose qu'il y a deux métiers pour lesquels il faut aucune préparation, celui de politicien professionnel et celui de parent. Et on lâche les gens, ne parlons pas maintenant de politique, j'espère qu'il y a parmi vous des gens qui pensent qu'il faut, votre présence ici d'ailleurs montre que vous pensez que la politique dans le sens large du terme est aussi une science et qu'on peut l'apprendre ou au moins l'étudier scientifiquement, dans le domaine des parents, n'importe qui se croit investi de pouvoir dans ce domaine-là, et la femme qui est battue par son bonhomme a toujours un objet sur lequel on peut rendre des coups, c'est-à-dire sur les petits-enfants, qui eux n'ont plus que le chat ou le chien pour se venger. Mais la question de notre camarade est une question tout à fait sérieuse, et un des grands mérites de Wilhelm Reich en tant que l'initiateur d'une tentative de politisation radicale de la question sexuelle a été d'analyser la fonction de la famille non seulement sous l'angle, si vous voulez, sexuel dans le sens le plus large du terme, mais aussi sous la façon de voir en elle une agence, en quelque sorte, une agence culturelle, entre guillemets, de la société, parce qu'il s'est posé la question, que s'est posé d'ailleurs, il existe une lettre d'Engels très intéressante à un jeune Allemand où il dit « Marx et moi, on n'a pas eu le temps, en réfléchissant sur le pourquoi de la société capitaliste, de voir comment elle fonctionne. » Et sous cet angle-là, on peut dire que les tentatives de la part soit de Freudiens, de psychanalystes, soit de la part de marxistes, de trouver un pont entre la psychanalyse, dans le sens le plus large du terme, la psychologie en profondeur, si vous voulez, et le marxisme devrait apporter, si vous voulez, beaucoup de choses au marxisme et à l'explicitation, à l'explication marxiste de la société d'aujourd'hui, et rendre plus clair les mécanismes de transmission et comment, toute proportion gardée, comment se faisait-il que la société bourgeoise, tant bien que mal, continue à fonctionner idéologiquement, culturellement parlant, si vous voulez. Mais mai 68, c'est quand même pas quelque chose qui se passe chaque lustre, si vous voulez. Si je peux revenir un instant en arrière, une camarade a dit quelque chose qui s'est perdu et qui est important, et que si nous attaquons à cela, je crois que notre discussion peut faire un progrès. C'est une espèce de question préalable. Vous savez qu'au Parlement, souvent, quelqu'un pose la question préalable, c'est-à-dire il n'y a pas à débattre. Elle a dit la chose suivante, toutes les attitudes sexuelles, etc., enfin, j'espère que je ne la trahis pas trop, sont du domaine de l'individuel, ce qui veut dire implicitement comment peut-on discuter dans ce cas-là de façon commune, si vous voulez, de la sexualité, puisque le vécu est un vécu particulier et chaque vécu est différent de l'autre. Alors c'est une objection qu'on entend énormément. J'espère que la camarade, si je dis quelque chose là-dessus, ne le prendra pas comme une attaque personnelle de ce qu'elle a dit, mais cette question préalable posée semble de dire où on ne peut pas faire de débat politique, sociologique, appelez ça comme vous voulez, scientifique, sur la sexualité, puisqu'il n'y a pas la sexualité, il n'y a que des sexualités, à moins, ce qu'elle n'a pas dit, mais ce que moi je tire comme conclusion provisoire possible de ce qu'elle a dit, à moins que chacun parle de sa sexualité, c'est-à-dire ce domaine, si vous voulez, de ce que j'appelle de confession publique. Alors, il y a des gens qui adorent ça, pouvoir se confesser en public, parce qu'on a remplacé le père auquel on confiait ses petits secrets dans un petit cagibi, si vous voulez, et d'avoir un grand public devant soi, il y a des gens à qui ça rend tout à fait joie, si vous voulez. Mais je pense qu'on n'est pas venu pour ça. Ça ne veut pas dire que le cas échéant, dans une discussion, quelqu'un ne peut pas faire référence, si vous voulez, à des choses qu'il a vécues personnellement en tant qu'être sexuel. Parce que l'ambiguïté réelle qui existe est la suivante, qu'effectivement, on peut parler de la sexualité a une fonction à l'intérieur de la société, elle est peut-être manipulée, ne serait-ce que la façon, parce qu'il y a des modèles sexuels, on se conforme à cela ou en réaction violente, et en même temps, c'est une question, si on en débat de façon scientifique et ou politique, c'est quand même pas une question où chacun n'est pas directement en tant qu'être sexuel concerné. Alors ça, c'est une vraie ambiguïté, ça rend peut-être les choses encore plus intéressantes et ça donne en tout cas la garantie que nous ne pourrions pas nous évader dans les nuages bleus de la théorie abstruse, le cas échéant, puisque quelque chose nous retient chacun comme individu, si vous voulez, à ce sujet-là. Alors je pense que cette objection de la camarade est une objection qui n'est pas valable, et on peut discuter de la sexualité, etc., tout en sachant que le vécu individuel de chacun de nous est sûrement pas identique à celui de son voisin de droite ou de sa voisine de gauche.
Tout à l'heure, tu as fait allusion à William Reich. Je crois que ce serait intéressant d'essayer de discuter un peu de ces théories, parce qu'on en parle comme ça, mais sans tellement approfondir, et puis en plus il est contesté. Enfin, il y a à la fois des gens qui le défendent et d'autres qui l'attaquent très, très violemment.
Wilhelm Reich a subi le sort de pas mal de grands esprits qu'on cite, qu'on se sent obligé de citer, et dont souvent on n'observe pas les idéaux pour lequel il s'est battu. Je prends un exemple, l'exemple ultra connu qu'on peut citer dans ce contexte-là. C'est au nom du cadavre embaumé de Lénine que dans l'Union soviétique se passent des choses qui sont diamétralement opposées à tout ce que Lénine a combattu, tout ce que Lénine a voulu faire, etc. Mais le cas de Reich est encore un peu plus compliqué par le fait que beaucoup d'idées et de conduites à la mode durera, ce qui est durera, ça personne ne peut le dire, sont en train d'envahir le marché des conduites humaines. Et quasiment, on peut lire dans tous les journaux qu'on invite de faire des stages, très chers d'ailleurs, de bioénergie ou d'autres, ça remplace aujourd'hui un peu le zèle, et ça se réclame aussi de Reich. Alors la complication avec Wilhelm Reich est qu'il a effectivement essayé de faire une synthèse entre l'héritage, le noyau révolutionnaire de la psychanalyse entre le marxisme révolutionnaire, mais il a été en quelque sorte une victime victimes de la victoire du fascisme international européen dans les années 30, et dans la dernière phase de sa vie, il est allé vers des théories entre guillemets sauvages, ce qui fait d'ailleurs que dans l'après-mai 68, ça fait un charme pour un public qui n'est pas peut-être très averti et qui ne cherche pas non plus peut-être une attitude rationnelle et rationaliste dans la vie.
Mirage était militant communiste, je crois, en Allemagne. Ça veut dire qu'il me semble qu'il avait essayé de réintroduire la sexualité dans les luttes. Et il me semble que c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on revienne dans les discussions, parce que c'est une dimension de la vie des gens qui n'est jamais abordée. C'est une dimension de la vie des gens qui n'est jamais abordée et qui pourtant est tout le temps là, enfin, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans toute la vie des gens. Et les organisations traditionnelles ont tendance à pas du tout aborder ça, sinon même à le refouler, enfin à l'interdire.
Constatant en passant que Reich a eu le malheur de devenir communiste quand le communisme officiel avait cessé d'être révolutionnaire. Il est donc devenu communiste au moment où Staline mettait la main sur et le communisme russe et sur la Troisième Internationale. Mais ceci mis à part, Reich a essayé d'attaquer le domaine de mœurs, le domaine de la culture, si vous voulez, c'est-à-dire de réintroduire dans le combat politique aussi la dimension culturelle, de ne pas se borner simplement dans la propagande et l'action dans le domaine politique, dans le domaine économico-social, mais d'ouvrir un nouveau champ de bataille, si on peut s'exprimer ainsi, qui touchait les affaires culturelles, les attitudes culturelles, ça veut dire aussi les attitudes quotidiennes de tout le monde. Et ça ouvrait la possibilité d'essayer de radicaliser aussi cette question-là. Il faut rappeler, ce qui n'est pas nécessairement connu en France, que dans les années 20, il y avait des tentatives de réforme sexuelle, il y avait même une ligue internationale pour la réforme sexuelle, et une des préoccupations de Reich était d'aller plus loin que simplement la réforme sexuelle, c'est-à-dire une réforme à l'intérieur des cadres et des structures de l'aliénation capitaliste. Il a essayé d'aller jusqu'au fond des choses, et cette tournure radicale mettait bien entendu en cause les structures capitalistes aliénantes de la vie et de la vie quotidienne, et ouvrait aussi la possibilité de s'adresser à des couches qui étaient particulièrement sur-réprimées, si on peut s'exprimer ainsi, les jeunes, les femmes, les enfants, les déviants.
Mais est-ce que ces thèses-là ne sont pas des thèses bourgeoises, en fin de compte, à mesure où, je crois, moi, que les problèmes des travailleurs, c'est pas tellement les problèmes sexuels, c'est les problèmes de conditions de travail, les problèmes d'horaire, de salaire. Et est-ce que c'est pas les emmener sur des fausses routes que les emmener sur ces problèmes-là?
Tu te fais, bien entendu, là, l'avocat du diable. Bien sûr, ce n'est pas ton opinion profonde, mais tu as raison de sortir cela, parce que c'est très souvent l'opinion des leaders traditionnels de la classe ouvrière. C'est d'ailleurs contre ces préjugés que Reich a dû se battre et qui ont amené son exclusion du Parti communiste allemand et de l'Internationale, d'ailleurs très très peu de temps avant la victoire d'Hitler. C'est ce sont des discussions qui rappellent les célèbres discussions scolastiques sur qu'est-ce qui est d'abord, l'œuf ou la poule. Et quand on ne veut pas, d'ailleurs ce serait intéressant de savoir pourquoi certains leaders de la traditionnelle et bien-aimée de la classe ouvrière hésitent ou reculent devant la discussion des questions sexuelles, il faut dire que c'est aussi c'est renoncer à tout un champ comme nouveau d'application et où les idées révolutionnaires pourraient avoir beaucoup de succès, mais d'autre côté, c'est peut-être par ricochet une preuve que ces leaders ou l'expression qu'ils sont des courants traditionnels de la classe ouvrière n'ont en dernière analyse pas la moindre intention de réaliser réellement les idées socialistes communistes et le fait de refuser de mettre en cause les conduites sexuelles, tout le domaine de mœurs, c'est-à-dire militer aussi pour changer la vie quand on veut aussi changer la société, est très intéressant et très significatif pour une espèce d'abandon de plus en plus profond de toute idée radicale et révolutionnaire et une preuve pour leur accommodation en dernière analyse à la société bourgeoise.
Est-ce que là, il n'y a pas un lien à faire avec le pouvoir aussi ? Il me semble avoir lu dans, je crois, c'est la révolution sexuelle de Reich, tout un travail qu'il avait fait entre sexualité et pouvoir, où en Union soviétique, au moment où le pouvoir était dans les masses, en même temps, au niveau des mœurs, le divorce était une formalité, le mariage aussi, on est arrivé à la libération de l'avortement, enfin des tas de choses qui faisaient que la sexualité était beaucoup plus libre chez les gens, en même temps où le pouvoir était vraiment dans les usines. Et petit à petit, quand on a enlevé le pouvoir des usines et donné à aussi la bureaucratie qui l'a pris, on a remis en route des tas de lois au niveau de la sexualité pour contrôler la sexualité des gens.
Ça pose le problème qui est très important. Est-ce qu'on peut s'imaginer une révolution sexuelle percée, c'est-à-dire une révolution sexuelle séparée de la révolution socio-économique? Est-ce qu'elle peut précéder peut-être une révolution socio-économique, ou pour que l'homme et les êtres humains puissent changer, pas à l'échelle de quelques individus, mais à l'échelle des masses, est-ce que les conditions générales ne doivent pas être bouleversées? Et les analyses intéressantes et les interprétations révélatrices que Reich a faites sur le bouleversement des mœurs dans la Russie soviétique, quand la nouvelle Russie était vraiment le fanal de la révolution mondiale et d'une nouvelle vie, il a démontré par la bande que pour que, comme phénomène de masse, pas simplement comme phénomène marginal, un changement de mœurs et surtout une levée en masse en quelque sorte des jeunes pour ne pas continuer de vivre comme on a vécu auparavant n'était possible qu'à la suite, comme conséquence d'une révolution sociale et politique incontestable. Alors sous cet angle-là, tu as raison d'attirer l'attention sur la deuxième partie d'un livre qui est répandu en France sous le titre, qui n'était pas le vrai titre original, mais pour l'instant je ne veux pas pinailler, La révolution sexuelle, où Reich démontre à l'évidence qu'à la phase montante de la révolution russe correspondait une véritable révolution des mœurs, et qu'à la contre-révolution stalinienne qui a suivi, a eu comme corollaire un retournement de la liberté du point de vue de l'avortement. On a réintroduit de nouveau le paragraphe contre les homosexuels, on a de nouveau sanctifié entre guillemets mariage et des choses de cet ordre-là.